Jean-Gilbert, aux amis, bonjour. La belle-mère, bonjour. Probablement d'autres personnes, mais j'arrive pas à voir les noms, donc je m'en excuse si vous mettez un petit mot dans la zone conversation ou commentaire, je pourrais vous saluer. Immaculée, bien entendu. Bonjour Immaculée, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à cette autre édition des bénédictions matinales du vendredi 29 octobre. Bon matin à mon père, à ma mère. Journée de jeûne et de prière aujourd'hui pour ceux qui le veulent et le peuvent. Bonjour Yolaine. Bonjour Rachel. C'est vrai que je ne t'ai pas vue cette semaine, Rachel. Tu avais un problème de connexion ou tu étais prise? Donc salutations aux sœurs qui sont connectées avec toi. Donc malheureusement, elles aussi n'ont pu assister ou n'ont pu entendre, je suppose. Donc on les salue. Mona, Chantal, Ocilia, bien le bonjour, bienvenue parmi nous. Tu veux dire bonjour aux gens, toi? Ouais, tu veux dire bonjour aux gens? D'accord, tu étais prise. Donc, bien heureux que tu sois plus libre ce matin. Et là, vous entendez la mélodie aquatique. C'est une œuvre classique que Nema est en train de jouer à grande lampée. Bonjour Farley, que Dieu te bénisse. Je suis très content que tu sois avec nous ce matin. Coucou, que Dieu te bénisse. Good morning, Pastor David. Happy to have you with us this morning again. God bless you. Marie-André, bonjour. On a salué Farley, maintenant on salue Marie-André, sa maman. Vous avez encore 5 minutes pour vous saluer, aller chercher de quoi vous désaltérer un peu. Comme c'est vendredi, journée de jeûne et de prière, j'ai une tisane. Ce matin, pas de café. Bonjour la belle-mère. Bonjour Marie-Huguette. Ai-je salué Leïka et Gaël cette semaine? Je ne me rappelle pas. Donc si je ne l'ai pas fait, je les salue. Si je l'ai déjà fait, eh bien, tu leur transmets une deuxième salutation. Et il faut leur dire qu'on serait heureux de les avoir parmi nous un de ces dimanches. Encore un petit 4 ou 5 minutes pour débuter. Nema est à mes pieds. Jamais très loin du maître. Bonjour Guy, que Dieu te bénisse. Bienheureux que tu sois parmi nous ce matin. Bonjour Denise, bonjour Gérard, soyez bénis. Merci Marie-Huguette. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit parce que je viens d'entendre des bruits de tronçonneuses et je sais qu'il y a des arbres à abattre pas tellement loin de la maison, dans les terrains des voisins. Donc on s'excuse s'il y a un peu de bruit tout à l'heure. Je dois vous présenter quelqu'un. Je l'ai salué il y a quelques semaines, peut-être une ou deux semaines, mais notre diffusion s'est interrompue. Donc, je vous présente la sœur de mon papa, donc ma tante Vivi. Elle répond au prénom et nom Geneviève Gufflet. Donc, c'est la sœur de mon papa. Très très content de l'avoir avec nous ce matin. Bonjour Tati, que Dieu te bénisse. Si je ne m'abuse, s'il n'y a pas trop de changements, elle est dans la région de Bordeaux, dans le sud-ouest, pour ceux qui connaissent un peu la France. Bonjour Myriam. Bonjour Donald. No, Pastor David, it's only the sun. No snow for now in Montreal. But I heard a friend from Calgary. On Sunday it's minus 14 over there and they'll have snow. But for Montreal, we're still okay for you, let's say. Encore une ou deux minutes. Une minute en fait. Et puis on va débuter. Habituellement, le vendredi, vous savez qu'on a un temps de jeûne et de prière. Donc, on consacre la réunion du vendredi matin à la prière. Mais comme on a eu une interruption mercredi, puisque j'avais des rendez-vous mercredi, donc le dernier enseignement, on le reprend ce matin. Mais on a rendez-vous ce soir, 19h. Tout de même pour notre temps de prière et d'intercession comme on a habituellement le vendredi soir. Juste faire quelques petites annonces avant qu'on ne prie et qu'on ne passe à l'enseignement. On vous rappelle que les inscriptions pour assister ou permettant d'assister à l'assemblée de dimanche matin en présentiel, donc les inscriptions ont encore cours jusqu'à midi aujourd'hui. Donc, vous pouvez nous contacter par courriel ou au numéro de téléphone de l'Église en laissant un message sur la boîte vocale. Et on vous rappelle en courant de journée, je crois que c'est ma mère aujourd'hui qui fait les confirmations. De surcroît à cela, dimanche soir, vous savez, c'est la fête d'Halloween. Et bien entendu, de par les positions que nous avons et la compréhension que nous avons de la parole de Dieu. Donc, on ne prend pas part à cette célébration d'Halloween. Mais depuis déjà de nombreuses années, le jour d'Halloween, on fait quand même une réunion de prière. Donc, cette année, malgré la distanciation, malgré le confinement qui tend à s'amoindrir, on va quand même faire une réunion ce dimanche à 19 h. Donc, un temps de prière. On va prier, oui, pour contrer tout ce qui se fait le soir d'Halloween, mais de surcroît cela, comme vous savez, on est en 2 week-ends d'élections municipales. Donc, les votes par anticipation se font demain et dimanche. Et puis après ça, le vote formel aura lieu le week-end suivant. Donc, on va prendre un temps pour prier pour Montréal, intercéder en faveur de la ville, que le Seigneur puisse s'émouvoir, nous utiliser et qu'il touche le cœur de tous les conseillers municipaux, la mairesse ou celui qui lui succéderait dans les élections des 2 prochaines semaines. Donc, voilà les annonces. Donc, je répète brièvement. Donc, ce soir, 19 h, notre rencontre de prière et d'intercession, toujours sur Facebook. Dimanche matin, 10 h, ceux qui veulent y assister en présentiel, c'est toujours ouvert. Vous vous inscrivez au courriel de l'Église ou par la boîte téléphonique, la boîte vocale de l'Église. De surcroît à cela, on se rencontre dimanche soir, 19 h, sur Facebook pour un temps de prière et d'intercession pour contrer Halloween et puis par la suite aussi prier et intercéder pour la ville en raison des élections municipales. Alors, ceci étant dit, ceci étant fait, on va prier juste pour débuter notre rencontre de ce matin et après ça, on passe dans l'enseignement du jour. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour cette occasion que nous avons d'étudier ta parole, d'y plonger le regard, sachant que celle-ci est la nourriture pour notre âme et notre esprit. Celle-ci, Seigneur, est l'eau vivante dont nous avons besoin, dont notre âme, notre esprit ont besoin. On te demande, Seigneur, d'ouvrir notre entendement, de nous permettre de saisir cette parole que tu as préparée de toute éternité. Pour cette matinée, tu pensais à nous, tu savais ce qui nous serait nécessaire pour cette journée et pour les circonstances qui sont nôtres aujourd'hui. Donc, comme tu nous as bénis tout au long de cette semaine, à travers les divers enseignements, nous avons la foi effectivement que tu sauras encore nous bénir ce matin. En toute chose, que toute la gloire, que tout l'honneur, que toute la puissance, la majesté te reviennent à toi et strictement qu'à toi. Nous avons prié dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors, comme vous savez, la thématique de cette semaine qui faisait suite à la prédication que le pasteur Sergio a pu partager dimanche lors de notre culte régulier. La thématique pour cette semaine, c'était Ranime-toi. On a basé cette expression sur le passage de 2 Timothée 1, 6, où Paul exhorte son fils spirituel et lui dit: C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu. Alors, ce qu'on a vu tout au long de cette semaine, c'est que la ranimation de notre âme, de notre esprit, la ranimation ou la réanimation du don de Dieu dans notre vie, ce n'est pas le fruit du Saint-Esprit, ce n'est pas le fruit du travail des uns et des autres, c'est le fruit d'une décision personnelle. Paul va laisser entendre à Timothée qu'il est de sa responsabilité, de son devoir, de veiller à ranimer le don qui lui a été octroyé par le Seigneur. Et tout au long de cette semaine, on a vu donc 3 domaines, 3 secteurs, 3 choses qui servent à la ranimation de notre âme. Tout d'abord, on a parlé d'une consécration envers Dieu qui devait être renouvelée. On a basé notre exhortation de lundi dans Romains 12, le verset 1. Ceux qui n'étaient pas là peuvent toujours faire descendre un peu la page Facebook tout à l'heure de l'Église et vous verrez les différents enseignements qu'on a prodigués cette semaine. Donc lundi, une consécration à Dieu renouvelée. Mardi, on a parlé d'une sensibilité envers la parole de Dieu, envers la Bible, qui se devait d'être aussi renouvelée. Mercredi, on a fait pause. Jeudi, donc hier, on a parlé d'une foi sincère qui se devait, elle aussi, d'être renouvelée. Et ce matin, thème important, nous parlons d'une communion avec Dieu, une communion avec le Seigneur que nous devons aussi renouveler. Le passage qui nous sert de méditation pour aujourd'hui, dans Jean 15, le verset 10, donc Évangile de Jean, le chapitre 15 et le verset 10, nous dit plutôt, si vous gardez mes commandements, c'est Jésus qui parle à ses disciples, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je répète le verset. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Trois sections, on va diviser ce verset en trois points importants ou trois sections importantes qui vont nous permettre à chacune des occasions de soulever deux éléments de réflexion. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Donc le point de base que Jésus enseigne ici à ses disciples, c'est que si nous gardons effectivement les commandements qui nous sont donnés, qui nous sont prescrits par la parole de Dieu, par conséquent, nous sommes appelés à demeurer dans l'amour de Dieu. Deux termes importants, le terme garder en grec tereo. Pour ceux qui se demandent pourquoi on parle du grec, c'est que le Nouveau Testament, donc tous les écrits qui sont faits depuis la naissance de Jésus jusqu'à ceux de l'Apocalypse qui annoncent les derniers temps, sont faits de façon initiale en grec, sont écrits en grec, alors que l'Ancien Testament, donc depuis la création, jusqu'à 400 ans avant la naissance de Jésus, donc jusqu'au dernier des prophètes de l'Ancien Testament, ce texte-là est écrit en hébreu. Il y a quelques petites exceptions par-ci par-là, notamment le livre l'Épître aux Hébreux, qui est écrit en araméen, mais à part ça, donc l'Ancien Testament est foncièrement écrit en hébreu et le Nouveau Testament en grec. Et comme nous étudions un verset du Nouveau Testament, donc voilà pourquoi cette semaine et aujourd'hui particulièrement, on retourne dans des termes grecs. Donc si vous gardez tereo, T-E-R-E-O pour ceux qui prennent des notes, si vous gardez mes commandements, et la commandement c'est entole, E-N-T-O-L-E, je répète E-N-T-O-L-E pour mes commandements. Tereo veut dire prendre soin de quelque chose, garder une chose dans son état approprié. Donc Jésus disait, si vous prenez soin de mes commandements, si vous gardez dans leur état approprié mes commandements. Garder, pourquoi? Garder parce que lorsque je garde une chose, c'est que j'apprécie cette chose. Vous êtes comme moi assurément, lorsqu'une chose perd de sa valeur à vos yeux, ben vous vous en défaites. Vous l'envoyez à la poubelle, peut-être, si c'est quelque chose qui doit être jeté, vous le donnez à quelqu'un d'autre. Dans l'ère moderne, on l'envoie au recyclage ou dans une boutique de choses deuxième main qui permettent de réutiliser les choses. Mais si elle n'a plus sa valeur, donc un bibelot, un objet, une chose, un meuble, si elle n'a plus son utilité chez vous, vous vous en défaites. Et c'est la même chose qu'on nous dit avec la parole de Dieu. Si cette parole a effectivement de la valeur, nous allons la garder. Si les commandements de Christ ont de la valeur, nous allons les garder. Si les enseignements et les préceptes qu'il a partagés avec ses disciples et par ricochet à travers la parole de Dieu qui nous a été partagée à nous, si effectivement nous accordons à la parole de Dieu et au commandement de Jésus leur valeur appropriée, on va donc les garder. Alors, premier point, lorsque je garde ces commandements, lorsque je veille à maintenir ces commandements, je suis en même temps en train de dire que j'apprécie la personne qui les a émis, la personne qui a émis ces préceptes et ces commandements. L'attachement qu'on va démontrer envers les commandements de Jésus sera tout simplement représentatif de l'attachement, de l'amour que nous avons envers Christ. Donc, on garde tout d'abord car on apprécie leurs commandements à leur juste valeur. On garde par la suite parce qu'on a le désir et le devoir de préserver ces commandements. Nous viendrons tous au consensus que si ce n'est l'Église qui enseigne, qui préserve et qui propage les enseignements de la parole de Dieu, si ce n'est l'Église, qui d'autre pourrait le faire? Assurément, ce ne sont pas les gouvernements laïcs de notre société moderne qui vont propager le message de l'Évangile. On ne va pas s'attendre à ce que le premier ministre ou dans d'autres contrées, le président se lève sur la tribune dimanche matin et commence à prêcher l'Évangile et commence à propager l'enseignement biblique. C'est à l'Église d'enseigner ces choses. C'est à l'Église que revient la responsabilité de garder, de préserver, de garder accessible à tout un chacun les enseignements de la parole de Dieu. Alors, je garde les préceptes de Jésus, je garde les enseignements de Jésus parce que j'en ai le désir, j'ai un attachement unique envers mon Sauveur et mon Seigneur, et par conséquent, je cherche aussi à préserver ses enseignements. Mais c'est un commandement que Jésus nous donne. Il nous dit, si vous gardez mes commandements, il est en train de leur dire, regardez, c'est votre devoir. Si vous voulez bénéficier de telle ou telle chose, vous avez le devoir de garder ces commandements, de les préserver. Alors, je le fais par obéissance, je le fais par amour. Et pour moi, c'est deux notions très différentes. Oui, qui marchent main dans la main, qui se côtoient sur le chemin de la vie, mais c'est quand même deux notions très distinctes. Obéir parce que la chose m'est demandée et faire les choses parce que j'aime la personne qui m'a demandé de les faire. Et je crois que c'est une combinaison des deux qui rend notre service optimal, qui rend notre service envers le royaume de Dieu à son apogée ou qui l'amène à son apogée. Quand on s'est relié, quand on s'est lié entre eux, l'amour qu'on a envers notre Seigneur et l'obéissance, le respect que nous lui devons. Donc, quand on associe les deux, on finit par obéir non seulement parce que la chose nous est demandée, parce que la chose est requise des serviteurs de Dieu que nous sommes, mais de surcroît à cela, parce que nous aimons aussi profondément notre Seigneur. Donc, on garde, car on apprécie à leur juste valeur les commandements qui nous sont prodigués par Jésus, et on garde parce qu'on a le désir et le devoir de préserver ces mêmes commandements. Et Jésus va dire, regardez, si vous gardez mes commandements, si vous obéissez à ce que je vous enseigne, alors vous demeurerez dans mon amour. Il dit la conséquence d'obéir à mes commandements, la suite logique de l'obéissance et de la préservation de mes commandements, c'est de demeurer dans mon amour. Le terme « demeurer » pour ceux qui prennent des notes, le terme « meno » en grec, M-E-N-O, et le terme « amour » bien sûr, en grec, un terme très usuel au niveau biblique, le terme « agapé ». On revient sur chacun des mots. Demeurer, meno, M-E-N-O, qui veut dire continuer à habiter, continuer à bénéficier. Et le terme continuer est important. On va y revenir dans l'explication tout à l'heure. Donc, Meno, continuer à habiter ou continuer à bénéficier d'une chose. Amour, agapé, qui nous parle d'affection, qui nous parle des bons propos, des bons sentiments, qui nous parle de bienveillance, mais qui va encore plus loin en nous parlant d'un festival d'amour. En grec, vous le savez, il y a plusieurs mots pour exprimer le terme amour. En français, on a ce nom commun, dans tous les sens du terme, qui va sur l'ensemble du spectre que peut représenter l'amour. En grec, il y avait des termes spécifiques pour chaque type d'amour, notamment lorsqu'on parlait de l'amour familial, donc entre des enfants et des parents et des enfants, entre frères et sœurs, on parlait de l'amour philéo, duquel va venir le terme filial. On parle aussi de cet amour-là lorsqu'on parle de collègues de travail, donc le terme filial. Lorsqu'on va parler de l'amour qui unit des époux, un époux avec son épouse, on parle du terme eros, hein, toujours en grec. Et lorsqu'on va parler du terme agapé, c'est comme si dans le grec, il y a une nomenclature ou il y a une... un échelon qui est donné à chacun des amours qui sont mentionnés. Et l'amour agapé est celui qui est à l'échelon le plus élevé. C'est le niveau d'amour le plus grand, le plus parfait. Voilà pourquoi lorsqu'on dit que Dieu est amour, le terme qu'on utilise pour amour dans ce cas-là, ce n'est pas l'amour filial, l'amour paternel de Dieu envers ses enfants, de Jésus envers ses serviteurs que nous sommes. Non, lorsqu'on parle de Dieu qui est amour, on parle du terme agapé. Un amour sans faille, un amour parfait. Et lorsqu'on parle de festival d'amour pour le terme agapé, on veut ici illustrer tout le côté explosif, tout le côté extraordinaire de cet amour. Non seulement extraordinaire dans la façon dont il est démontré envers nous, et l'exemple le plus important est Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, comme on voit dans Jean 3,16. Donc ce paroxysme, ce sommet de l'amour qui est manifesté par Dieu en donnant son Fils pour le salut de l'humanité. Donc, festival de l'amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. On garde les commandements pour avoir accès à l'agapé de Dieu. Non seulement garder ces commandements nous permet d'accéder à l'amour de Dieu, mais aussi, comme je le disais tout à l'heure, c'est le terme meno, demeurer, veut dire continuer à vivre dans un endroit, continuer à bénéficier d'une chose. Alors, obéir au commandement de Dieu nous permet non seulement d'être introduit à l'amour de Dieu, d'être exposé pour une première fois à l'amour de Dieu, mais de surcroît à cela, obéir au commandement de Dieu nous permet de demeurer sous la coupole, sous l'auréole de l'amour de Dieu en notre égard. Mais ça va plus loin que cela. Trop souvent, lorsqu'on regarde ce verset, on pense que rester ou demeurer dans l'amour de Dieu, c'est demeurer dans l'amour que Dieu a pour nous. Ça va bien plus loin que strictement l'amour de Dieu envers nous. Rappelons-nous, quel est le commandement de Jésus? Lorsque Jésus s'apprête à mourir, il va dire à ses disciples, « Voici, je vous donne un commandement nouveau. » Aimez-vous les uns les autres. Et à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Donc Jésus, lorsqu'il va donner un commandement nouveau à ses disciples, et par conséquent à nous qui sommes aussi ses disciples, c'est cette exhortation à l'amour. L'amour entre nous, l'amour les uns envers les autres, l'amour envers notre prochain, l'amour envers notre ennemi. Parce qu'effectivement, l'amour chrétien, l'amour qu'enseigne la parole de Dieu, est un amour qui transcende la facilité d'aimer ceux qui nous aiment, qui transcende, qui va bien plus loin que strictement aimer ceux qui nous ont fait du bien. La Bible nous enseigne à aimer même nos ennemis. Dans ce passage où Jésus va dire, si on te frappe sous la joue gauche, tends la joue droite, et il va dire d'aimer ses ennemis. C'est pas un souhait pieux, ce n'est pas une exhortation, c'est un commandement. L'exhortation, comme on l'a vu au début de la semaine, c'est le terme parakaleo, qui veut dire de prendre quelqu'un à part pour lui faire une recommandation, pour l'aviser d'une situation qui fonctionne moins bien et d'améliorations qui doivent être apportées. Lorsqu'on parle ici d'un commandement, on va bien plus loin. On va dans quelque chose qui est exigé de la part de Dieu. Donc l'amour agapé qui est exigé par Dieu est un amour de notre part envers nos frères et nos sœurs en la foi, mais aussi envers tout adversaire que nous pourrions avoir. Et c'est dans cette manifestation de l'amour de Dieu qui émane de nous que tous connaîtront que nous sommes ses disciples. L'amour a besoin particulièrement de se manifester lorsque les choses vont moins bien. L'amour va entraîner de la tolérance. L'amour va entraîner de l'abnégation. L'amour va entraîner du pardon. Et cela tend envers ceux qu'on aime bien, qui parfois nous marchent sur les pieds et nous embêtent, voire même envers ceux qui sont délibérément et consciemment des ennemis à notre égard. L'amour qu'on va leur témoigner, l'amour qu'on va exprimer envers eux, va être un modèle, va être un témoignage de notre chrétienté. Plusieurs pensent que c'est simplement en parlant de Jésus qu'on témoigne de notre foi. Assurément, la foi, et on l'a vu cette semaine, se doit d'être proclamée, se doit d'être partagée. On a mentionné hier que la foi chrétienne était une foi qui poussait, qui commandait le prosélytisme, donc le fait d'évangéliser, de partager de façon verbale, de façon audible, le message de l'amour de Jésus, mais notre manifestation par des faits tangibles, par des actions tangibles, par des réactions qui sont palpables, qui sont mesurables, cela va venir attester la véracité de nos propos, va venir attester l'honnêteté de nos sentiments. On peut se proclamer chrétien, mais ce sera à travers nos actions que nous allons témoigner de la véracité de notre statut d'enfant de Dieu. Et Jésus va dire, à travers cet amour que vous avez les uns envers les autres, c'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Le terme connaître ici, c'est attester. C'est de pouvoir mettre le sceau d'approbation en disant, ces gens-là sont réellement qui ils disent qu'ils sont. La Bible nous dit que dans l'église d'Antioche, ce fut le premier endroit où les gens ont été appelés chrétiens. On sait qu'à l'époque, donc le christianisme va commencer par des juifs, donc de foi judaïsante, comme on le voit encore aujourd'hui, donc des gens qui émanent de l'enseignement de l'Ancien Testament, et pendant un certain temps, ils n'ont pas d'appellation. On n'est pas capable de dire « voici quel est le nom de leur groupe ». On sait qu'ils ont un Jésus comme Seigneur, ils ont un Jésus qu'ils proclament être le Messie, mais pendant un certain temps, ce sont simplement des Juifs messianiques, des Juifs qui ont trouvé le Messie, des Juifs qui ont cru dans le message de Jésus. Et arrivés à Antioche, parce que les gens les regardaient, ils ont commencé à dire « voici des chrétiens ». Et la Bible nous dit que c'est le premier endroit, la première fois où les gens ont été appelés, où les croyants ont été appelés des chrétiens. Qu'est-ce qu'on a fait lorsqu'on les a appelés des chrétiens? On a dit, voici des gens qui reçoivent, qui suivent, qui respectent, qui maintiennent les préceptes de Christ. Ils ont reçu l'enseignement de Christ, ils l'appliquent dans leur vie et leur vie témoigne de leur appartenance à Christ. Donc aujourd'hui, pour nous, lorsqu'on dit qu'on va maintenir les commandements de Dieu actifs dans notre vie, lorsqu'on dit qu'on va obéir, préserver, partager les préceptes de Jésus, c'est de façon manifeste obéir à Jésus en appliquant, en usant, en manifestant l'amour de Jésus envers tout un chacun. Donc on garde parce qu'on apprécie les commandements à leur juste valeur, on garde parce qu'on a le désir et le devoir de préserver ces commandements, on garde afin d'accéder à l'amour de Dieu, on garde les commandements parce qu'on a le désir de se maintenir dans l'amour de Dieu, mais aussi parce qu'on a le devoir de manifester de façon claire, de façon tout à fait précise et tout à fait palpable, l'amour de Jésus. Et là, Jésus va terminer avec cette phrase où il dit « De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Alors, il dit « Gardez mes commandements et vous demeurerez dans mon amour. » Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Le terme de même, c'est le terme kathos. K-A-T-H-O-S. Je répète, de même, kathos. K-A-T-H-O-S. Et kathos veut dire comme, tel que, à la même proportion que, ou en accord avec. En fait, ce que Jésus dit à ses disciples, regardez, ce que je vous demande, moi-même je le fais. Ce que je vous demande, moi-même je l'illustre auprès de vous. Et assurément, Jésus est l'exemple parfait de l'amour de Dieu rendu manifeste, rendu palpable, amour de Dieu qu'on peut admirer à travers des actions tout à fait concrètes. L'action la plus concrète étant la mort de Jésus à la croix pour le pécheur. Et là, ce n'est pas strictement pour le pécheur repentant. La mort de Jésus qui sauve, effectivement, aura été efficace pour le pécheur qui s'est repenti, mais Jésus n'est pas mort que pour le pécheur repentissant. Jésus est mort pour tous les pécheurs. Après cela, chacun des pécheurs, donc toi, moi et l'ensemble de l'humanité, est amené à prendre une décision envers ce Jésus. Le reconnaît-on effectivement comme le Seigneur et le Sauveur de l'humanité? Reconnaissons-nous effectivement qu'il est la seule source de salut qui a été donnée à l'humanité? Ou rejetons-nous l'acte salvateur qu'il a eu à accomplir sur la croix pour chacun d'entre nous? Donc, Jésus est en train de dire... Je vous donne l'exemple. Et cet exemple, la Bible nous dit, lorsqu'on arrive dans les dernières heures de Jésus avant sa mort, Jésus mit le comble à son amour et il va laver les pieds de ses disciples. Jésus met le comble à son amour et il va partager un dernier repas avec celui qui va le renier, avec celui qui va le vendre, avec ceux qui vont fuir à cause de la menace. Jésus va par la suite mettre le comble à son amour en acceptant la volonté de Dieu. Même si à prime abord son âme était tiraillée, Jésus va dire « Si tu pouvais retirer cette coupe de mes lèvres. » Mais à cause de son amour qui est mené à son comble, Jésus va terminer cette prière en disant « Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. » Et il accepte de mourir à la croix. Jésus va même dire dans un autre passage, « Personne ne m'enlève la vie. » Alors, ce n'est pas Dieu qui lui enlève la vie. Ce n'est pas le diable qui lui enlève la vie. Ce ne sont pas les soldats romains qui lui enlèvent la vie. Ce ne sont pas même les juifs qui vont le condamner à cette mort ignoble qui lui enlève la vie. Jésus va dire, personne ne m'enlève la vie. C'est moi qui donne ma vie pour mes brebis, pour mes enfants. Alors Jésus va nous donner l'exemple de l'amour parfait. Et quand on utilise le terme de même kathos, Jésus est en train de dire, soyez mes imitateurs. Un peu comme Paul va dire à l'Église plus tard dans les Épîtres, il va dire, soyez mes imitateurs comme moi-même je suis imitateur de Christ. Alors si Paul est en train d'imiter Christ et qu'il dit à tous et chacun de l'imiter à lui, par ricochet, on imite qui? Nous imitons Paul, qui Paul lui-même imite Christ. Nous sommes effectivement appelés à garder les commandements de Christ parce qu'on tire la leçon de ce que Jésus lui-même a fait. On garde les commandements de Christ parce qu'on veut dupliquer, parce qu'on veut imiter l'exemple de Christ. Souvent, les gens se demandent, mais comment je dois vivre en tant que chrétien? Notre question la plus simple par rapport à ça, c'est de se demander, en toute situation et en toute circonstance, qu'aurait fait Jésus à ma place? Et assurément, je crois que dans la grande majorité des circonstances qui surviennent dans notre vie, on a facilement des réponses lorsqu'on se pose cette question. Je vous ai déjà parlé de ce bracelet que les jeunes gens portaient il y a encore quelques années. Non, il y a plus que quelques années, puisque j'étais jeune à l'époque, et que je m'approche du demi-siècle. Les jeunes gens portaient un bracelet avec un sigle en anglais qui était WWJD. WWJD, qui était l'anagramme, en fait, de « What would Jesus do? » Que ferait Jésus? Ou qu'aurait fait Jésus? Et c'était tout simplement pour se rappeler, dans chacune des circonstances qu'on pouvait traverser, d'avoir ce petit mémo accroché au poignet qui nous rappelait « Florent, dans la décision que tu t'apprêtes à prendre, qu'aurait fait Jésus? » Un peu ce pense-bête qui nous amène face à chacune des situations de notre vie à s'interroger si Jésus avait été confronté avec cette même situation, quelle aurait été sa position? Quelle aurait été son attitude? Quel témoignage aurait-il donné? Quel geste aurait-il posé? Jésus est mort, même pour le pécheur qui ne le reconnaîtrait jamais. Jésus est mort pour offrir le salut, même à ceux qui ne seraient pas reconnaissants. Il a tout de même offert l'opportunité l'offre de salut. Ça devrait être un exemple pour toi et pour moi. Nous devons aimer, rester dans l'amour de Dieu, demeurer dans l'amour de Dieu, non seulement pour bénéficier l'agapé que lui a envers nous, pour bénéficier de l'amour qu'il veut répandre sur notre vie, mais de surcroît à cela, pour être nous aussi des conducteurs de l'amour de Dieu, un peu comme un métal qui conduit l'électricité, pour être des conducteurs de l'amour de Dieu envers tous ceux qui nous entourent. Alors nous gardons les commandements de Dieu, nous suivons les préceptes de Dieu pour rester dans cette intimité avec lui, pour rester sous le parapluie, sous le chapeau, sous la bannière de l'amour de Christ à notre égard. Mais de surcroît à cela, nous le faisons aussi pour amener davantage de gens, davantage d'hommes et de femmes sous la tutelle de Jésus et sous la coupole de l'amour de Jésus. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. On va prier pour conclure et après ça, on repasse à travers les petites annonces qu'on a fait un peu plus tôt aujourd'hui. Seigneur, combien il est important de veiller à notre communion avec toi, de veiller à vivre dans un contexte, dans une situation, dans un état dans lequel, Seigneur, tu peux répandre ta grâce, ta bénédiction et ton amour sur nous. Ta parole nous dit, Seigneur, que si nous aimons véritablement, alors nous accomplissons toute la loi. Le moyen le plus parfait qui nous a été donné, est le seul moyen excellent, en fait, qui nous a été donné pour accomplir tes commandements et accomplir ta volonté, c'est de vivre et de demeurer sous l'égide de ton amour. Veillez, Seigneur, à ce que jour après jour, action après action, parole après parole, nous soyons, Seigneur, de bons dispensateurs de ton amour. Alors, je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère, effectivement. Je prie aussi pour moi-même, que je puisse être, Seigneur, un meilleur témoin de ton amour, un meilleur porte-parole, porte-voix de ton amour, un meilleur dispensateur de ton amour. Seigneur, tu nous enseignes à aimer ceux qui nous font du bien. Tu nous enseignes à aimer les frères et les sœurs que nous avons dans la foi, mais tu nous appelles aussi à aimer nos ennemis, ceux qui nous méprisent, ceux qui nous font mal, ceux qui nous blessent, ceux qui nous attaquent inconsciemment parfois, voire même, Seigneur, tout à fait délibérément. Lorsque toi, tu étais à la croix, tu aurais pu d'un claquement de doigts faire descendre des myriades d'anges sur cette terre pour apporter justice contre tous ces hommes qui t'avaient accroché à la croix. Et pourtant, dans ton ultime prière, tu as manifesté encore cet amour ineffable où tu as dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font, car ils ne comprennent ce qu'ils font. » Tu as eu grâce envers tous ceux qui t'avaient flagellé, qui t'avaient blessé, qui t'avaient accroché à la croix. Et lorsque nous devenons, nous, chrétiens, lorsque nous devenons des témoins, des enfants de Dieu, lorsque nous devenons des serviteurs de Dieu, lorsque nous devenons des porte-voix du royaume de Dieu, nous comprenons, Seigneur, que nous devons tirer exemple de ce même amour que tu as manifesté envers chacun d'entre nous. Alors, Seigneur, continue à nous transformer, à nous changer, à bonifier nos vies, afin, Seigneur, que nous puissions t'imiter encore davantage chaque jour. Nous voulons prendre la décision de nous approcher de toi. Nous voulons prendre la décision, effectivement, d'aller de progrès en progrès, de faire tout ce qui est nécessaire de notre côté pour rentrer dans tes plans et dans ta volonté. Alors, je prie, Seigneur, que tu pourvoies les occasions aujourd'hui à mes frères, mes sœurs, moi-même, de pouvoir, Seigneur, témoigner de ta grâce et de ton amour un peu mieux que nous ne l'avons fait hier et assurément bien mieux que ce que nous avions l'habitude de faire par le passé. Permets-moi de mieux aimer. Permets-moi d'être un meilleur serviteur. Permets-moi, Seigneur, d'être un meilleur représentant de ton royaume. Que l'amour, Seigneur, règne dans mes pensées, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon être tout entier, et que je ne puisse pas, Seigneur, réfréner cet amour, mais qu'il soit manifeste auprès, Seigneur, de toute personne que je croiserai aujourd'hui. Nous t'avons prié en sachant que tu entends et que tu réponds aux prières de tes enfants. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors voilà, c'était l'enseignement pour aujourd'hui. On vous rappelle quelques petites annonces qu'on a fait un peu plus tôt. Donc ce soir, 19h, on a un temps de prière et d'intercession, comme d'habitude le vendredi soir sur Facebook. Donc on va pratiquer quelques cantiques tout à l'heure avec Daphné, au retour du boulot de Daphné. Et puis on entonnera ça pour débuter la soirée. Par la suite, vous savez que les inscriptions pour l'assemblée de dimanche matin prennent fin ce midi. Donc, on vous invite à ne pas tarder, si vous ne l'avez pas déjà fait, à appeler au numéro de l'église, au téléphone de l'église, pour laisser votre pour laisser votre demande d'inscription ou à nous écrire par courriel afin d'assister en présentiel à l'assemblée. Si vous n'êtes pas là en présentiel, vous savez que nos assemblées du dimanche matin sont bien sûr diffusées sur toutes nos plateformes Internet, sur la page web de l'église, sur Facebook, sur YouTube, sur Zoom même, on est diffusé, donc vous pouvez toujours y accéder si vous n'êtes pas là en personne. Et enfin, dimanche, ce sera le 31 octobre, donc fête d'Halloween, j'aime pas le terme fête pour ce mot, mais les gens vont célébrer Halloween. Vous savez qu'en tant que chrétien, nous ne le faisons pas. La Bible dit d'être désunis avec les choses des ténèbres, et assurément, Halloween est la fête la plus ténébreuse qui soit. Donc, comme on en a pris l'habitude depuis déjà de nombreuses années, donc vendredi soir, on aura un temps de prière. Ce sera cette fois-ci strictement sur Facebook, donc une trentaine de minutes par là qu'on passera, non seulement pour contrecarrer les œuvres des ténèbres en cette journée du 31 octobre, mais de surcroît à cela. Aussi, on va prendre un temps pour prier pour les élections municipales qui ont cours ce week-end et le week-end prochain au niveau du Québec et particulièrement de Montréal. Alors voilà les annonces qu'on avait pour ce matin. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve ce soir, 19h, pour ceux qui le peuvent. Et puis sinon, c'est dimanche matin sur le web ou en présentiel. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. Au revoir tout le monde.